la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de la démocratie participative au sein des organisations comme les collectivités locales. La démocratie participative, qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Quand y fait-on appel ? Et pourquoi le fait-on ? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Joe Spiegel. Vous êtes connu au niveau national pour votre pratique de la démocratie participative dans la commune de Kingersheim, située dans la banlieue de Mulhouse, dont vous avez été le maire de 1989 à 2020. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont un paru en janvier 2017 et édité aux éditions Temps Présent, qui s'intitule « Si on prenait enfin les électeurs au sérieux ». Et dernièrement, un autre livre paru mi-octobre 2020 qui s'intitule « Nous avons décidé de décider ensemble », édité aux éditions de l'Atelier. Bonjour Jo.
Bonjour Jean-Michel.
Jo, aujourd'hui nous sommes en novembre 2020. Je vous propose de faire un bref retour en arrière jusqu'en 1989, date à laquelle vous avez été élu maire pour la première fois. Comment perceviez-vous la fonction de maire à cette époque ?
Je crois que je la percevais déjà comme un ensemblier de l'agir public et sans doute cela me provient de ma formation plutôt structuraliste où je considérais que l'élément prend du sens que par rapport au tout. Et donc je sentais la nécessité de porter une vision et d'ailleurs j'ai besoin de qualifier la ville et au fond du fond avec le recul, je pense que l'ambition que nous avions et que nous avons c'est de construire une ville fraternelle, je pense pas seulement belle mais fraternelle humainement. Et donc avec la volonté de transformer les choses. Ça m'habitait déjà dès le début. Avec une équipe plutôt Boy Scout, mais quand je dis Boy Scout, c'est au sens très positif, une forme de naïveté, une forme de perméabilité, et surtout habité par le sens de l'intérêt général, qui n'est pas l'addition des intérêts particuliers. Déjà, j'étais imprégné, alors que j'étais plutôt formé par des courants structuralistes, marxisants, libertaires aussi, par une philosophie que j'ai appris à connaître, qui est celle du personnalisme d'Emmanuel Mounier, qui m'a conduit à conjuguer en permanence responsabilité personnelle, solidarité collective, et surtout à me référer à l'idée que chaque personne est unique au monde, qu'elle est singulière, qu'elle travaille à être unifiée en elle-même, unifiée aux autres et unifiée à ce qui la transcende. D'où l'importance que nous avions dès le premier mandat, à partir d'un diagnostic qui était le nôtre, qui était semble-t-il juste pour une ville qu'on voulait bouger, de partir tout, de considérer que l'enfant était la place centrale de la ville. Et à partir de là, autour de cette préoccupation centrale, nous avons décliné les politiques publiques, et en particulier la culture, l'éducation. Bref, nous avons mis l'accent sur ce qui est invisible, qui est essentiel, plutôt que ce qui est visible. On a réparé des trottoirs, c'est certes sans doute important, mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, nous avons travaillé à cela, avec simplement, comme nous avions beaucoup de choses à faire dans ce premier mandat, dans une ville où il y a peu de choses, eh bien, nous avons fait pour les habitants et pas avec eux. Et ce qui fait que le faire avec me paraît aujourd'hui essentiel. C'est permettre à chacun d'éprouver le processus qui permet de transformer les choses, qui permet de se transformer et d'une transformation collective. Et faire pour, au fond, à contrario, c'était en forme de relation fournisseur-client qui est très éloignée de l'idée que je me fais d'un espace public en tant qu'espace en co-responsabilité. Et donc, nous avons travaillé ensuite sur le passage, la transitivité entre ce que j'appelle une démocratie providentielle, où l'horizon de tous est l'individu consommateur électeur, vers une démocratie construction où l'horizon c'est le citoyen, partie prenante du bien commun. En d'autres termes, le résultat est important, mais plus important, c'est le processus de transformation, le processus de cheminer ensemble. Ce qui est important, c'est l'élection sans doute, mais elle perd de sa performance démocratique pour entendre des propos de Rosan Ballon. Ce qui est plus essentiel, c'est de rendre vivante la démocratie dans l'intervalle des élections.
Alors, en 30 ans de mandat, pouvez-vous dire à nos auditeurs et auditrices comment vos postures d'élu local, comment cette posture a évolué ?
Merci de dire qu'il y a évolution, bien sûr. Je pense qu'il y a trois choses importantes qui ont joué. D'abord, un moment important, et je crois que chaque personne est au rendez-vous de deux ou trois moments importants de sa vie, qu'il ne faut pas louper, et c'est un travail sur soi, Comment passer de l'égo-compétition, de l'élu aux dents qui racle le plancher, vers l'alter-coopération, c'est-à-dire l'élu qui partage le pouvoir, eh bien, c'était ce rendez-vous avec soi-même, une forme un renoncement mortifère qui était excessivement douloureux. Et cette douleur m'a fait me rencontrer dans ma fragilité. Et au fond, je me rends compte que la fragilité est une force parce qu'elle nous ramène à notre part d'humanité et donc, possiblement, lorsqu'on est en responsabilité, un rapport plus humble au pouvoir. Et ça me paraît essentiel. Si on veut travailler à une démocratie construction, il faut faire ce travail sur soi. Et parce que on se croit très fort dans le cumul des mandats, en réalité, on est très faible. Parce que quand on a besoin de pouvoir, on est faible. Et donc, souvent, quand on a l'idée de partager le pouvoir, on pense le perdre. En réalité, je me reviens à cette réflexion d'Hannah Arendt qui disait que le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît de ce qui se disperse. Et donc, pour moi, ça a été important, ce travail de transformation personnelle. Le deuxième moment important, c'est se donner du temps, et je le dis aux nouveaux élus et aux collaborateurs, de séminaires, de discerner nos pratiques, de penser l'action et d'agir sur la pensée. Et donc, ce moment de discernement, pour moi, était essentiel, et notamment la prise de conscience des réunions de quartier classiques qui sont aujourd'hui, je le dis, très simplement, le déni de la démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est une relation fournisseur-client, c'est l'anesthésie démocratique, c'est les habitants qui sont là, nombreux, mais qui, sentant que la décision essentielle est entre les mains des élus, eh bien, s'auto-censurent et réduisent à poser les questions et les problèmes de leur rue, de leur quartier, des problèmes de gendarmes couchés, de crottes de chiens, des problèmes de voisinage. Et donc, je me dis, c'est pas ça l'idée que je me fais d'un espace public en co-responsabilité. Et donc, à partir de cela, on a refusé absolument de se considérer comme des magiciens et les habitants comme des consommateurs. C'est ça qui tue la démocratie. Et donc, nous avons toutes les propositions que nous avons faites après, à partir du deuxième mandat, étaient avec comme objet d'activer la citoyenneté qui existe en chaque personne. C'est la croyance que chaque personne est capable de penser, de se révolter, de réfléchir, de co-construire. Et donc, au lieu de réunions de quartier, nous avons par exemple mis en œuvre diagnostic en marchant. Comment cheminer ensemble dans le quartier pour voir ce qui ne va pas et quelles solutions construire ensemble? Qui du citoyen? Qui de l'organisation? Qui du politique? L'idée que c'est pas le politique qui est l'alpha de la politique. Et puis, un dernier mandat, dernier mandat, nous avons mis en œuvre des rencontres en quartier qui n'ont rien à voir avec des réunions de quartier. C'est des rencontres décentralisées. Nous invitions les habitants par groupe de 10 et pas plus, avec un maître du temps, un animateur, un porteur, de réfléchir sur les doléances, c'était plusieurs mois avant les gilets jaunes, mais aussi dans un deuxième temps de trouver des solutions, bien sûr, toujours mettre les gens en situation en co-responsabilité, en co-inventivité de solutions. Et puis le deuxième temps, c'était très surprenant d'inviter les habitants à travailler sur la bienveillance dans la ville. En quoi vous êtes acteur, bénéficiaire, témoin de bienveillance? Et on s'est rendu compte, les habitants se sont rendu compte, finalement, à travers cet exercice, que la plus grande richesse d'une commune, c'est l'humain, c'est les citoyens eux-mêmes. Et donc, pour moi, ça a été important. Et puis, le troisième élément important de l'évolution, c'est le temps de se donner le temps de réfléchir, de se ressourcer, de penser et de voir, il y a 30 ans, ce qu'ont vu les Gilets jaunes, c'est-à-dire le constat d'un fossé qui n'a cessé de se creuser entre les représentants et les représentés. Et donc, c'est à partir de cela que nous avons patiemment, à partir du deuxième mandat, construit un écosystème démocratique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de peindre la démocratie d'un peu de participation, mais de mettre la citoyenneté au cœur de tout processus de décision. Et nous avons construit en 2015, à partir de 20 ans d'expérimentation, une charte de renouveau démocratique. Et puis, nous avons mis en avant un concept qui me paraît aujourd'hui assez singulier, mais essentiel, c'est la démocratie-construction. Démocratie-construction, parce qu'une décision est toujours un processus. Il faut arrêter de penser qu'il suffit d'un peu d'avis, un zeste de consultation pour changer les choses. Et cette démocratie-construction, pour moi, elle a un qualificatif, elle est exigence. Pour être de qualité, il faut qu'elle soit interactive. Un avis seul, une consultation est d'une faible performance démocratique. Ce qui est interactif crée la richesse démocratique. Il faut aussi que ces démocraties-construction acceptent la lenteur. Je parle souvent de slow démocratie. Ben, l'idée que pour aller au fond du sujet, il faut du temps pour aborder la complexité qui est un élément majeur de la vie publique et l'altérité qui est une réponse essentielle à la vie publique, eh bien, il faut du temps. Il faut aller au fond du sujet. Et enfin, cette démocratie-construction, elle doit être édifiante. Comment, dans toute séquence démocratique, passer du je au nous, du cas particulier à l'intérêt général, du discours court terme vers la parole au long cours? Et quand on dit ça, ça change profondément l'attitude de l'élu Il fera plus pour les habitants, il fera avec les citoyens, avec des ressources de sens, d'intelligence, d'expertise. Il ne sera pas plus dans un face-à-face stérile et infantilisant. Il sera dans la coproduction de plein pied avec les citoyens, avec les organisations, avec les experts, avec les collaborateurs qui sont essentiels dans l'objectivation du processus de décision. Il ne sera plus dans le tout ou rien qui ne fonctionne nulle part, mais dans le compromis dynamique qui est le moteur des transformations. Et c'est cela qui nous a profondément fait évoluer progressivement, lentement, à travers des moments importants.
Donc, donner le temps au temps. Il y a une question là que, en vous entendant, vous écoutant. Donc, écouter le citoyen, le rencontrer, créer des cahiers de doléances. Mais derrière, comment ça se passe au niveau de l'équipe territoriale, en fait, qui est très technique et donc qui a des habitudes. C'est je suis l'expert de la voirie. Comme vous le disiez, je vous consulte deux minutes, j'ai un premier avis, mais je fais comme moi, je pense qu'il faut faire. Là, vous mettez les territoriaux en situation d'accepter qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une réponse ou une solution à un problème.
Absolument, c'est fondamental. D'ailleurs, la condition de réussite, c'est le temps suffisant du partage de cette conviction avec les territoriaux. Et l'expérience me montre que les collaborateurs sont davantage reconnus dans un processus de partage de pouvoir que lorsqu'ils sont délaissés dans leur seule expertise technique. Il y a du bonheur chez les collaborateurs à faire cette mue. D'ailleurs, ils sont souvent davantage prêts à cela que les politiques, parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'exigence de la conquête du pouvoir. Et en fait, c'est vrai, la condition de réussite pour réussir le triptyque élu-collaborateur-citoyen, c'est d'avoir le binôme élu-collaborateur. De considérer que l'expertise du technicien est fondamentale. C'est en ce sens que je diffère de tous les populistes qui considèrent les technocrates. Il y a des technocrates que lorsque le politique démissionne. Eh bien, moi, je pense que la technicité est importante, elle permet d'objectiver le débat, et le rôle des experts dans tous les processus de décision, pour moi, a été démontré et est très important. Et d'ailleurs, j'en arrive ici à peut-être rappeler les trois piliers, parce qu'il y en a plusieurs, trois piliers de cet écosystème dans lequel les collaborateurs jouent un rôle essentiel. D'abord, nous avons considéré qu'il doit y avoir un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Et ce lieu, c'est la Maison de la Citoyenneté que nous avons construite en 2006, 2 ans après les États généraux permanents de la démocratie. En fait, la permanence, c'est la Maison de la Citoyenneté, c'est-à-dire dire qu'il y a un lieu où les citoyens sont chez eux, comme les élus, comme les techniciens, et que ce lieu est un lieu où on favorise les trois fonctions démocratiques, la fonction du débat, la délibération, la fonction de la décision, mais aussi la fonction essentielle de la co-construction, qui sont confiées à des instances participatives qu'on appelle les conseils participatifs, qui sont la pierre angulaire de toute séquence démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondateur dans cet écosystème, c'est une démocratie continue, qui n'est pas une démocratie en continu faite de palabres sans fin, c'est une démocratie continue, c'est le principe que pour chaque projet mis en agenda par la ville, ou pour chaque pétition, nous ouvrons une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. Le début, c'est d'inviter les personnes concernées, toutes les personnes, au festin démocratique. L'acte 2, c'est la réunion publique qui permet de débattre, de verbaliser les peurs, de préconiser les premières propositions et surtout d'instituer la séquence démocratique. C'est une constituante permanente pour chaque projet, en confiant une instance participative qu'on appelle les conseils participatifs, d'aller au fond du sujet. Et ces conseils participatifs diffèrent profondément des conseils citoyens parce qu'on refuse la démocratie et la queue-leu-leu. D'un côté, le conseil citoyen, puis le technicien, puis le politique qui décide tout seul. Bien, les conseils participatifs, c'est la volonté d'organiser de plein pied, de fertiliser les points de vue, les compétences différentes, avec chaque fois un collège d'habitants volontaires et tirés au sort, un collège d'élus majoritaires et minoritaires, le collège des collaborateurs et des experts externes qui peuvent s'ajouter, qui peuvent apporter leur richesse, et le collège des organisations, qu'elles soient syndicales, entrepreneuriales, associatives. Nous avons là le monde, la France en miniature qui se parle. Il faut que la France apprenne à se parler, et c'est localement qu'on le fait, et c'est le sens des conseils participatifs qui ont cette dimension originale qu'on a vue nulle part ailleurs. Pour moi, c'est fondamental. Il faut que les gens se parlent. Et les experts dans ces structures-là sont tout à fait essentiels. Donc un lieu dédié, un principe d'une démocratie continue, une instance qui est une démocratie édifiante grâce à la fertilisation de tous les points de vue. J'ajoute d'ailleurs que notre démocratie construction diffère à la fois de la démocratie participation où on participe sans voter et la démocratie directe où on vote sans participer. Ce qui est majeur dans notre démarche, c'est que toutes les séquences démocratiques s'inscrivent dans deux phases essentielles. La première phase, elle est décisive, c'est la phase de la concertation, du conseil participatif, de l'agora, et la phase décisionnelle Personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce qui est plus important, ce qui est décisif ou ce qui est décisionnel. Et donc, ce qu'il faut marquer comme essentiel, c'est le continuum démocratique entre la phase décisive et la phase décisionnelle. Et ça se traduit par visuellement par le moment important où lors d'un conseil municipal dédié à un sujet qui a été maturé par un conseil participatif, eh bien, je suspends la séance du conseil municipal, je demande aux adjoints de se retirer et je demande aux représentants des collèges du conseil participatif de venir délibérer leurs préoccupations sur la base desquelles les élus vont décider. Voilà ce qui est décisif et donc voilà ce qui est décidé. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un impact essentiel entre la démocratie construction et la démocratie décision.
Effectivement, très, beaucoup, beaucoup de coopération entre citoyens et agents territoriaux et élus. Mais vous, comment avez-vous personnellement vécu cette évolution ?
Alors, je dois vous dire que plus ça avançait, plus je me sentais en phase, en tout cas en harmonie avec des convictions, peut-être quatre convictions. La première conviction, c'est d'avoir fait ce travail sur moi pour perdre toute certitude. Parce que lorsqu'on est habité par des certitudes, on n'est plus dans le dialogue. On n'est plus dans la capacité de compromis dynamique. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a une forme de radicalité dans l'espace public qui est marquée par des certitudes absolues, mais qui vont nous mener au mur. C'est le monde, c'est la guerre de tous contre tous. Et moi, je crois profondément qu'il faut avoir des convictions, mais pas de certitudes. La conviction, la première qu'il me faut développer, c'est relier démocratie et exigence. Vous voyez, on est exigeant avec tout le monde, et on ne serait pas exigeant avec le monde politique. Eh bien, le monde politique doit se ressourcer à l'ère de la démocratie, et donc du parler vrai. Et pour moi, l'exigence première d'un politique, c'est d'élever le débat public, de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut, et donc de parler vrai, et d'avoir le courage de la transformation, et donc d'user de la grammaire démocratique et non pas de l'alphabet politicien. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est de conjuguer démocratie et transformation. On n'est pas là pour être réélu à vie. On n'est pas là pour un statu quo qui fait plaisir à tout le monde. On est là pour le courage de la transformation. Eh bien, la transformation, pour moi, elle n'est pas ni révolution, ni réforme. La révolution peut-être advenir, elle est peut-être parfois nécessaire historiquement, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui, je ne crois pas à ça. Je crois à des transitions, je ne crois pas à la réforme qui est souvent régressive ces derniers temps, je crois à la métamorphose et donc à la conduite de transition avec les gens. Et puis la troisième conviction, elle fait partie de l'impensée démocratique et je veux l'affirmer avec force. Je crois qu'il y a un lieu de fertiliser la question démocratique et la question spirituelle, la dimension spirituelle qui ne se réduit pas à des religions qui sont souvent l'objet de guerre. La dimension spirituelle, c'est « soyez le changement que nous voulons pour le monde ». C'est Gandhi. Et donc, c'est de réhabiliter l'idée qu'il n'y a pas de transformation collective sans transformation personnelle. Et cette transformation personnelle passe par le primat du sens. Pour qui, pourquoi et pourquoi en deux mots. Passe par aussi l'intériorité, cette capacité de faire silence. Et aussi par la notion de grandissement personnel. Et donc, d'accepter l'idée que le commun, ce n'est pas l'addition des envies, que la démocratie, ce n'est pas la limite sans fin, mais il y a un cadre, il y a des limites face à l'hubris et qu'il y a une part de transcendance républicaine dans toute décision. Toute décision est une part de renoncement et toute décision est une part de dépassement du quant à soi et donc de sortir de l'égoïsme et de l'individualisme prégnant.
Effectivement, beaucoup d'émotions dans ce que vous avez dit. Donc moi, ce que j'en conclus en tant que citoyen, c'est que être maire, ce n'est pas un métier.
Ah oui, ce n'est pas un métier, c'est... Je pense que c'est une mission et que profondément, je crois que la nouvelle génération d'élus aura un rôle essentiel. D'abord parce que c'est localement, ici et maintenant, dans nos territoires, que nous allons travailler les transformations, notamment la transition climatique, la transition sociale, la transition démocratique. Ces trois transitions sont de l'urgence. Et que les élus locaux, contrairement à ce qu'on peut penser, auront un rôle de plus en plus essentiel à condition de changer de regard, de considérer que l'espace dont ils sont en charge sont des espaces de transformation et d'excellence humaine, à condition de changer de pratique, parce que je crois que pratiquer le changement, c'est changer de pratique, c'est ce que je viens de dire, et puis de changer de paradigme. Je pense qu'il faudra désormais considérer l'élection, non pas comme une fin, mais comme un début. L'élection ne sera jamais plus qu'un passeport pour une démocratie continue, réelle et effective. Et que le rôle de l'élu va profondément changer. Quand je dis le rôle de l'élu, c'est le rôle du couple élu-collaborateur, de décideur, parce que nous aurons l'honneur et la dignité de décider, et le rôle de décider, que c'est une affaire difficile. Avant d'être décideur, nous serons des animateurs du processus de décision. Il n'y aura pas de décision sans phase décisive de concertation. Deuxièmement, nous continuerons à fournir des équipements publics et des services publics. Et ça, c'est essentiel. Je crois à la qualité du service public et à la réactivité au service public. Mais en même temps, nous serons des activateurs du pouvoir d'agir des citoyens. Plein de choses qui viendront des citoyens. Et donc les budgets participatifs, le fonds d'initiative citoyenne que nous avons mis en place il y a 20 ans sont essentiels. Et ça part de l'idée que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Nous sommes peut-être des catalyseurs. Permettre, prendre la distance par rapport à son propre pouvoir pour faire émerger d'autres initiatives citoyennes. Et nous, je pourrais longuement parler des projets comme le restaurant associatif L'Échelle à Kingersheim, l'éco-fab lab qu'on a favorisé, qu'on a accompagné. Tout cela pour permettre à des habitants d'être acteurs de leur cité. Et donc, la dernière chose que je voudrais dire peut-être par rapport à cette question, c'est que ce qui nous appartient aujourd'hui, les élus locaux peut-être, d'abord et avant tout, c'est de rétablir la confiance. Il y a aujourd'hui une défiance incommensurable de la politique. Eh bien, il faut arrêter de faire la politique et il faut pratiquer la démocratie. Et pratiquer la démocratie, c'est relégitimer la décision publique. Et cette relégitimisation passe par 4 enjeux majeurs. La première, c'est être dans la promesse tenue. Que fais-tu de ma voix? Eh bien, on est dans la promesse tenue. La deuxième légitimation, c'est le résultat. C'est l'usage rigoureux des deniers publics. Combien de palais départementaux, combien de choses parfois inutiles qui ont été entreprises. Eh bien, c'est important, notamment par un public modeste qui est souvent, influencé par les partis un peu démagos. Eh bien, l'idée, c'est que l'argent public doit être utilisé d'une manière rigoureuse, notamment dans la bonne organisation des pouvoirs locaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La troisième légitimité, elle se fait par le symbole. Il faut introduire de la modestie, de l'humilité dans l'action publique, dans le rôle du maire. Moi, c'est coupé de ruban, on voit toutes les strates de pouvoir, comme si on était copropriétaire, comme si on était propriétaire de ce que nous faisions. Ça, c'est la mauvaise image des élus locaux, qui ne sont pas ça. Les élus locaux, c'est pas ça. Et donc, il faudra vraiment, par des symboles simples, par exemple des temps d'appropriation plutôt que des coupés de ruban, montrer que nous sommes parmi les autres, de passage, et que nous aurons essayé de faire le mieux possible et de solliciter le meilleur des gens. Puis dernière, légitimité de l'action publique, c'est par le processus. C'est ce que je développe dans mon bouquin « Nous avons décidé de dessiner ensemble ». Il s'agit à chaque fois, de démontrer que la légitime décision vient pas seulement de parce qu'on est élu, mais comment le processus a été mis en œuvre. Et donc le rôle des élus, au début de chaque projet mis en agenda, c'est de se poser la question « Comment associer les citoyens au processus de décision ? Comment coproduire de l'intérêt général ? Comment construire du commun dans une société repliée sur elle-même, isolée parfois, ou parfois simplement habitée par l'individualisme privé? Voilà un peu ce que je pense, avec la chance que nous avons d'une fonction publique territoriale dont l'honneur de l'action publique est reconnu aujourd'hui, notamment en matière de compétences, en matière d'écoute, de perméabilité à l'action publique et au changement. Et ça, c'est pour nous une chance.
Effectivement. Jo, notre émission touche à sa fin. Vous avez décidé, mais cette fois personnellement, de vous retirer de la vie politique à la fin de votre dernier mandat au printemps 2020. Quelles convictions sur les modalités de gouvernance locale auriez-vous envie de partager? Vous en avez dit une partie, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, en fait, c'est ce que je viens de dire, en gros. Hein. Il s'agit de changer de regard, changer de pratique, changer de paradigme. Je pense que ce qui me paraît important, c'est que les gens, les élus de cette génération, et beaucoup de listes ont été élus sur la base de la participation démocratique, considèrent que leur rôle est important, mais qu'ils doivent changer le rapport à l'intérêt général. Très souvent, en fait, c'est ce que j'appelle le républicanisme. C'est d'être habité par l'intérêt général et de se sentir garant de l'intérêt général. Qui nous autorise à penser que parce que nous sommes élus, que nous serions les garants de l'intérêt général? Et donc, il faut, au contraire, être à la source de la coproduction de l'intérêt général. Dans une société minée par l'individualisme, nous devons être des activateurs d'altérité. Et donc, de faire en sorte que tous les projets mis en agenda fassent l'objet de cette transitivité entre le jeu singulier et nos collectifs. En fait, nous devons être des ouvriers du mieux vivre ensemble. C'est ça l'enjeu dans une société aujourd'hui atomisée, archipélisée. Nous devons retravailler sur comment faire société aujourd'hui.
Merci, Jo Spiegel. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes un des pionniers dans le domaine de la mise en œuvre de la démocratie participative durant 30 ans de mandat de maire à la commune de Kingersheim, dans la banlieue de Mulhouse, et aussi que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont un paru en janvier 2017 et édité aux éditions Temps Présent, qui s'intitule « Si on prenait enfin les électeurs au sérieux », et dernièrement un autre livre paru mi-octobre 2020, qui s'intitule « Nous avons décidé de décider ensemble », édité aux éditions de l'Atelier.
Merci Jean-Michel.
Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.